Les amis, bonjour, bienvenue sur RMC. C'est le retour de la carte postale pour ces championnats d'Europe d'athlétisme. On est à Birmingham, au cœur de l'Angleterre, et on est au Alexander Stadium. C'est un petit stade, 12 700 places au départ. Il y a des structures tubulaires dans les virages pour rajouter un petit peu d'affluence dans ce stade. Et on a la chance cette année de bosser avec Teddy Tamgo, ancien recordman du monde du triple saut en salle, coach à succès. Et maintenant, tu as totalement changé de discipline, Teddy. Qu'est-ce que tu deviens ? Salut Teddy déjà.
Bonjour. Oui, c'est clair que j'ai complètement changé. Je ne suis plus dans le milieu du sport aujourd'hui. J'ai shifté plus pour la finance. Donc, je suis compte analyste aujourd'hui et c'est ma nouvelle profession.
Un fan des mathématiques, si j'ai bien compris.
Disons que c'est un domaine en tout cas qui m'intéresse. Surtout les mathématiques appliquées, bien sûr, hein, pas les mathématiques pures comme certains geeks, on va dire. Mais voilà.
Bon, pour ce stade, alors voilà, on est sur un stade champêtre, on va dire, par rapport à ce qu'on a connu à Tokyo ou aux Jeux Olympiques, évidemment. Toi, tu n'as jamais concouru dans ce stade, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces conditions ici à Birmingham ?
Bah, normalement, en Angleterre, on va dire que le pays n'est pas connu justement pour avoir des bonnes conditions. Pour le moment, cette semaine, pour la majorité en tout cas de ce championnat, on aura quand même le soleil qui sera au rendez-vous, ce qui est une bonne chose. Et on espère un maximum de performances. Mais il y a eu une compétition il y a eu peu de temps justement lors des Commonwealth et il y a eu des très très belles performances. Et j'espère aussi que les performances seront clairement au rendez-vous en fait sur ce championnat.
Par contre, un public qu'on cite toujours parmi les meilleurs du monde, le public anglais.
Oui, ils sont très engagés. C'est clair que là, on aura du bruit, on aura du mouvement. Il y aura beaucoup d'enthousiasme. Surtout en plus que les participants, n'est-ce pas, anglais en fait sont très forts. Hein, ils ramènent un contingent assez intéressant, assez solide depuis quelques années. Et forcément, le public sera derrière eux et on aura droit justement à beaucoup de bruit, à beaucoup d'encouragement et que la fête commence.
D'ailleurs, en 90 ans de championnat d'Europe, il y a eu 338 médailles anglaises. C'est évidemment le premier pays en termes de médailles sur le continent. Et c'est la première fois qu'il y a des championnats d'Europe en Angleterre. C'est vrai que ça, c'est assez étonnant. Ça n'était jamais arrivé. Il y a eu des Jeux Olympiques, des championnats du monde, mais il n'y a jamais eu de championnat d'Europe. Donc, ce sera une grande première. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équipe de France. D'ailleurs, on va vous commenter avec Teddy toutes les épreuves de 20h à 22h tous les soirs sur RMC. On a Jimmy Gressier, évidemment, qui est la superstar. On fera les chances de médailles quasiment à la fin de ce podcast. Ce sera un podcast en longueur parce qu'on va écouter Jimmy Gressier très en longueur. Mais d'abord, je veux ton avis, Teddy, parce qu'aujourd'hui, sans Kevin Mayer, sans Sirena Samba-Maïla ou par exemple un Renaud Lavillenie, c'est vraiment Jimmy Gressier aujourd'hui qui représente l'athlétisme français. On rappelle, champion du monde en titre du 10 000 mètres, c'était à Tokyo. Il a également remporté le bronze sur 5 000.
Oui, c'est sûr que l'année dernière, il nous a tous fait plaisir, hein, qu'on se le dise, avec sa double médaille, dont le titre, n'est-ce pas, je crois, au 10 000 mètres, c'est bien ça. Clairement, il arrive aujourd'hui comme le grand patron de l'équipe de France. Maintenant, il y a aussi certaines individualités, n'est-ce pas, qu'il faut souligner, notamment avec Yann Chossignan qui a réalisé une saison complètement remarquable. On espère pour lui qu'il va briser justement, entre guillemets, hein, bien sûr, la malédiction justement de rester au pied du podium. Il est en confiance, on espère vraiment qu'il pourra justement lancer les hostilités avec une belle médaille et j'espère la plus belle.
Bon, pour revenir sur Jimmy, je vous le rappelle qu'on va écouter très en longueur dans cet épisode. Il a battu les meilleurs Africains, les meilleurs Européens. Quasiment aujourd'hui, le demi-fond européen, c'est le niveau mondial. Il y a eu Andreas Arngren avec lui sur le podium à Tokyo. Isaac Kimeli, le Belge, est également très fort. Là, dans sa course, il y aura Jakob Ingebrigtsen qui a été longuement blessé, opéré du tendon d'Achille en début d'année. On va voir comment il est. D'ailleurs, on l'a croisé dans les rues de Birmingham. Il avait lunettes de soleil, il avait l'air très affûté. Il s'est aussi préparé à Saint-Moritz comme Jimmy Gressier. Il y aura l'autre Français, Etienne Daguinos, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Comment t'estimes la densité et la discipline relevée de Jimmy Gressier sur le 5000 mètres ce lundi soir ?
Alors, on sait que Jimmy est un compétiteur. Il l'a toujours été. Maintenant, il a concrétisé, n'est-ce pas, les espoirs qu'on avait en lui l'année dernière. Cette année, il a très peu couru, il a moins couru qu'à l'accoutumée. Maintenant, je pense qu'il faut avoir confiance en lui. Je pense s'il a décidé justement de prendre part à ce championnat, c'est qu'il est conscient de son potentiel, il est conscient qu'il peut aller chercher de belles choses. Il accepte justement de doubler lors de ce championnat et pour moi, je pense que c'est une bonne chose, il faut le faire confiance.
Ben on va l'écouter, Jimmy Gressier, un quart d'heure de Jimmy Gressier qui nous raconte toute son année, son déménagement à Boulogne-sur-Mer et tout simplement ses énormes ambitions pour ces championnats d'Europe de Birmingham.
Ouais, j'ai bien compris que les gens comptaient sur moi, moi aussi, je compte sur moi. J'arrive avec des objectifs forts, je veux être double champion d'Europe, c'est l'objectif. J'arrive en bonne forme, les séances se sont très bien passées. Maintenant, j'arrive avec un peu moins de certitude, on va dire, qu'avant les championnats du monde, même si les championnats du monde, c'est un cran au-dessus par rapport aux championnats d'Europe. Mais les championnats du monde, je suis arrivé avec une victoire à Zurich en Diamond League. 2 semaines avant les championnats du monde, donc en fait je savais que j'étais bien à l'entraînement, mais j'ai confirmé en compétition officielle, alors que là j'arrive, j'ai fait le choix de pas courir en compétition officielle parce que j'avais besoin de passer beaucoup de séances spécifiques à l'entraînement. C'est chose faite, maintenant j'ai hâte de plus tourner en rond on va dire à l'entraînement et de tourner en rond en compétition pour aller chercher j'espère les 2 médailles d'or que je me suis fixé. En fait, ce que je suis allé chercher à Saint-Moritz plutôt qu'à Foromeux par rapport à l'année dernière, alors que Foromeux ça a fonctionné l'année dernière en étant champion du monde, mon stage s'est très bien passé, c'est j'avais besoin de faire un peu plus de spécifique pour faire monter la forme. À Foromeux c'est compliqué parce qu'il faut descendre à 1h45 en bas à foie, alors que Saint-Moritz c'est à moins de 50 minutes, on peut descendre bas, et donc pour faire le spécifique c'est plus facile de le faire à 300 mètres d'altitude plutôt qu'à 1800 mètres d'altitude. Et puis aussi j'avais besoin mentalement de changer d'air aussi, de faire autre chose, et donc et puis Saint-Moritz beaucoup m'en ont parlé, et donc il fallait que je le fasse au moins une fois dans ma carrière. Et là on va dire que il y a moins de risques entre guillemets de rater un championnat d'Europe plutôt qu'un championnat du monde, et donc je voulais pas le faire l'année prochaine à 2 ans des Jeux Olympiques et à 1 an des championnats du monde. Je préférais prendre le risque entre guillemets, même s'il n'y a pas énormément de risques, mais c'est vrai que quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, on est un peu perdu au début. J'ai testé cette année Saint-Moritz pour ne pas me dire que si un jour j'arrête ma carrière, je n'aurais pas fait Saint-Moritz.
T'as
trouvé des réponses ? Ouais, un endroit vraiment top pour s'entraîner. Bon, ça coûte très cher quand même en Suisse, très très cher. Et je me suis rendu compte aussi qu'à Foromeux, on avait tout ce qu'il fallait pour bien performer. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'on peut courir pas mal sur sol plat, alors qu'à Foromeux ça grimpe un petit peu, mais bon c'est pas méchant. Et puis t'as pas besoin de la voiture là-bas, tu descends en bas de chez toi et y a tout de suite les lacs pour courir, donc un bon endroit, mais Foromeux reste mon préféré.
Tu parlais de l'objectif double médaille d'or, alors là 5000 puis 10 000, est-ce que déjà c'est un peu plus compliqué que le 10 000, 5000 de l'année dernière? Et autre question, sur quelle épreuve tu donnerais entre guillemets le plus de chance, même si bon c'est pas l'objectif quand tu le dis comme ça, c'est double médaille d'or, mais sans Almgren sur le 5000, on peut imaginer que c'est peut-être déjà marquer les esprits dès lundi quoi.
Le but ouais c'est de marquer les esprits dès lundi, d'être champion d'Europe, et je sais très bien que les certitudes que j'ai pas encore, si je suis champion d'Europe sur 5000, le 10 000 mètres sera plus facile à aborder mentalement, et je sais que quand ça se passe bien la première course, derrière voilà, je cours avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de relâchement, donc le but ce sera déjà de réussir le 5000 mètres. J'ai encore dit tout à l'heure, le niveau pour moi je le prends comme un niveau mondial, parce que l'année dernière on est 2 Européens sur le podium sur 5000 et sur 10 000, donc le niveau européen aujourd'hui pour moi c'est le niveau mondial, donc je le prends aussi comme un championnat du monde dans ma tête. Et puis aussi voilà, il y a Jacob qui sera aussi présent. On a bien vu sur les réseaux sociaux qu'il n'était pas forcément à 100%. Moi, je l'ai vu à l'entraînement. Je sais qu'il est très bien. Que s'il se pointe sur cette ligne de départ, c'est qu'il sait qu'il a toutes ses chances de gagner. Et bien, moi, j'aimerais le faire mentir, comme j'aimerais faire mentir aussi d'autres athlètes, parce qu'il y a pas mal d'outsiders qui sont très dangereux et qu'il faudra s'en méfier. Et moi, je me vois aussi sur ce championnat, en tout cas, comme un outsider, parce que pour l'instant, j'ai rien prouvé au niveau européen senior. J'ai prouvé au niveau mondial. Sauf que, voilà, cette saison sur la piste, on l'a vu à Paris. À Paris, j'étais en bonne forme. Je venais de faire 7-28 avant. Sauf qu'à la fin, quand il faut partir avec les mecs et avoir le kick, je ne l'ai pas eu. Et donc forcément, je me suis remis un petit peu en question, même si je savais que je n'étais pas à 100% ce jour-là. Et j'ai cherché à être à 100% à partir de lundi pour aller justement dans ce dernier 200 mètres, aller chercher la victoire.
L'année blanche, Jacob reste un danger pour toi. C'est vraiment, tu te dis, vu la carrière du gars, c'est sûr qu'il va être dangereux s'il est là. Après.
Oui. En fait, déjà, je respecte chaque athlète qui est sur cette ligne de départ. Tout le monde a ses chances de gagner. Mais Jacob a confirmé, et surtout dans un scénario de course où c'est très lent, je pense qu'il est capable de finir fort un dernier 200 mètres. parce que c'est ses qualités. Il est capable de courir avec beaucoup de facilité un dernier 200 en 25 sans qu'il ait besoin forcément de changer de foulée ou de cadence. Ça, c'est impressionnant. Je l'ai encore vu là en stage finir quand même très vite sur des efforts courts avec de la facilité. Par contre, je sais que si ça court très vite au train, il sera un petit peu, il coincera. Je pense que si demain ça venait à courir sur 12,50, 12,55, il aurait entre guillemets moins de chances de gagner au vu de sa forme actuelle que si c'est une course tactique. Il a plus de chances à gagner si c'est une course tactique. Alors les gens vont se poser la question, ouais, mais pourquoi du coup Dimi ne court pas vite? Bah, des mecs comme moi qui peuvent courir vite, il y en a aussi dans la course. Je prends l'exemple de Loubalo, je prends l'exemple aussi d'Etienne Daguinos qui, je pense, peut être très dangereux aussi au train. Et donc en fait, moi j'ai compris que c'était pas à moi de faire le train pour les autres. Pendant longtemps, je l'ai fait en croyant que je pouvais lâcher les autres et ça fonctionnait pas, et je me suis fait confiance on va dire une fois et ça a fonctionné à Zurich, j'ai gagné, et je me suis encore fait confiance au championnat du monde, j'ai gagné. Et donc moi voilà, le but c'est de pas courir et puis d'être présent dans les derniers tours et garder un maximum d'énergie et de kicker dans le dernier 100.
D'ailleurs, au championnat d'Europe, tu as déjà eu des déceptions. Alors, grosse déception, je ne sais pas si a posteriori tu peux le dire comme ça. Ouais. Tu envisages aussi, malgré tout, que ça, tu le dis, c'est pas parce que tu es champion du monde que sur une course d'un jour, ça peut pas mal se passer.
Bien sûr, moi j'envisage tous les scénarios de course. Après, j'ai fait en sorte ces dernières semaines de mettre toutes les chances de mon côté, de bien récupérer, de bien manger, de passer les séances que je devais passer pour aller chercher mes objectifs. Après, ça reste du sport. Hein. En tout cas, je sais ce qui fait la différence entre Munich et Rome sur les dernières éditions. Munich, j'arrive cramé mentalement après un championnat du monde à Udine. Au niveau de la maturité, j'avais pas la même que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, l'athlète, c'est vraiment mon métier et j'arrive à tenir sur des saisons très longues. Alors que plus jeune, j'étais au mois de juillet, j'étais déjà cramé. Chez les espoirs, j'étais déjà cramé en avril. Donc à chaque fois, maintenant, je suis cramé en septembre. Mais bon, on est en août, donc c'est le bon timing. Et puis, j'arrive pas blessé. À Rome, je suis arrivé blessé. J'avais une fissure dans le tendon avec une bursite et le syndrome d'agglutte qui commençait à se développer. Et donc, les 10 derniers jours avant Rome, j'étais sur le vélo, sur l'elliptique. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire du vélo ou de l'elliptique, c'était très dur à apprivoiser mentalement. Et là, vraiment, j'arrive à 100%, il n'y a aucune excuse. Alors que sur les championnats précédents, à chaque fois, je pense que je suis arrivé à 70% à Rome. Et à Munich, je suis arrivé, on va dire, à 80% physiquement, mais mentalement, j'étais à 10%. Je ne me voyais même pas faire 25 tours sans presque avoir une idée d'abandonner parce que j'étais vraiment mentalement pas bien à cette période-là.
C'est bien mangé, tu as l'air affûté, peut-être même comme on t'a jamais vu. T'es à 59, t'es plus bas ou t'es vraiment là?
Ouais, non, je suis là où je voulais être, je suis à 59,5. Je sais que pour à Paris, par exemple, j'étais à 62,5, donc j'ai quasiment perdu 3 kilos. Je sais que le jour de la course, lundi, j'aurais quasiment repris 1 kilo parce que forcément, je cours beaucoup moins, donc je dépense moins. Mais en tout cas, j'arrive aussi affûté qu'à Tokyo, même si à Tokyo, c'était un affûtage différent parce qu'on s'entraînait beaucoup en humidité. Du coup, les segments étaient beaucoup plus tracés, plus fins. Mais en tout cas, sur le poids, sur la balance, je suis au même poids qu'à Tokyo. Mais j'arrive, on va dire, moins affûté mentalement. Par contre, j'ai beaucoup de fraîcheur mentalement. Je n'ai pas peur d'enchaîner les tours et j'ai envie d'y être, vraiment. Je me tarde d'être sur la ligne de départ et de fighter avec les adversaires. Mais par contre, j'arrive avec moins d'assurance. Et le but, c'est de réussir le 5000 pour après prendre plus de plaisir sur le 10000 et courir en patron.
À Paris, ça t'a montré que tu n'étais pas forcément là où tu voulais être. Ouais. Est-ce que tu dirais, avec le recul maintenant, que la saison post-mondiale a été peut-être plus compliquée que ce que tu aurais imaginé? Ou comment est-ce que, ouais, voilà, est-ce que tu peux en parler un peu?
Déjà, quand j'ai été champion du monde, j'étais sur la planète Mars. Hein. Je me prenais pour je sais pas qui mentalement. Tout le monde me disait... coupe, va pas faire les championnats d'Europe de cross, va pas faire les championnats du monde de cross aussi. Et en fait, pour moi, je leur disais, mais non, mais c'est bon, j'ai juste besoin de faire ça à l'entraînement, là je suis trop fort physiquement et tout, mentalement, j'ai envie de tout casser. Et en fait, championnat d'Europe, j'étais encore dans cette vibes. Je fais deuxième, je commence à... parce que j'y allais uniquement pour le titre, la deuxième place, ça m'intéressait pas, même si je suis très reconnaissant d'avoir... une médaille au championnat d'Europe de cross, mais c'était pas l'objectif. Et après, derrière, il y a eu les fêtes de Noël. La semaine des fêtes de Noël, j'ai fait 190 km. Le jour de Noël, j'ai fait 37 km dans la journée. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, mais j'avais tellement faim, je voulais. Comme je le dis, je veux être la meilleure version de moi-même. J'ai été le meilleur au monde le 14 septembre 2025. Je le répète, je ne suis pas le meilleur au monde, mais je veux le devenir. Et en fait, j'étais vraiment, comme je disais, sur la planète Mars, j'avais envie de tout casser. Et j'ai pris un petit coup de bambou juste après les fêtes, pendant les fêtes avec 190 km, elle m'a fait mal. Et puis après, il y avait les championnats du monde de cross qui arrivaient. Et pile avant les championnats du monde de cross, mentalement, j'avais plus du tout envie d'y aller. Et vu que je m'étais engagé auprès de Yann et Étienne et de l'équipe de France d'aller chercher quelque chose en équipe, j'y suis allé. Mais j'ai souffert pendant ces championnats du monde de cross. J'étais l'ombre de moi-même pendant la course. J'avais aucune envie. Je me suis battu jusqu'à la fin. Mais cette course, elle a laissé des traces physiquement et mentalement. Du coup, derrière, j'ai beaucoup galéré. Et ensuite, j'avais l'objectif de battre le record du monde à Lille du 5 km. Sauf que derrière, j'ai eu quand même beaucoup de galères. Je suis tombé plusieurs fois malade et tout. Et sur les 4 dernières semaines, avant le 5 km de Lille, déjà, je vois que Yann est en forme pas possible. Et j'apprends qu'il veut aussi venir courir à Lille. Et là, je me dis, oula, je crois que le plus dur, c'est pas de battre le record du monde, ça sera de battre Yann sur cette course. Et donc, j'ai pris quand même un petit coup de flip. Je suis arrivé en Afrique du Sud. Et là, j'ai mis les bouchées doubles. Et en fait, j'étais tellement remonté à l'idée de courir entre guillemets contre Yann à domicile et de pas me faire battre que j'ai oublié presque de battre le record du monde. Je voulais que battre Yann et c'était vraiment l'objectif parce que je savais que Yann était en grande forme et qu'il lui voulait battre le record du monde ce jour-là et il voulait partir sur des allures beaucoup plus rapides que la mienne. Et donc en fait, toute cette saison avec des ups et des downs, ça a été un peu compliqué à gérer émotionnellement et surtout aussi après les championnats du monde, beaucoup de demandes de médias, beaucoup de rendez-vous partenaires. Donc tout ça, pendant 2 mois, je me prenais pour un surhumain et après, à la période de Noël, j'ai tout pris dans la tête. Et pendant 3-4 mois, je m'entraînais, hein, ça allait bien, plutôt bien l'entraînement, mais aucun plaisir et c'était compliqué. Et après Lille, ça s'est bien passé, sauf que j'avais prévu de prendre déjà 5 jours de pause après Lille pour enchaîner sur la suite de la saison. Mais physiquement, j'avais envie d'essayer d'aller battre le record d'Europe de Yann du 10 km. On m'a proposé des courses un peu partout pour aller essayer de battre ce record d'Europe. Sauf que j'ai coupé exprès pour me dire l'objectif, c'est pas ça, c'est vraiment les championnats d'Europe. Et c'est pour ça qu'ensuite, dans la saison, j'ai couru à Montreuil, j'ai couru à Paris. Après, je devais enchaîner avec Monaco. J'y suis pas allé, pas parce que physiquement ça allait pas ou mentalement ça allait pas. C'est juste que je voulais garder un maximum de fraîcheur mentale et de pouvoir m'entraîner sur une longue période jusqu'aux Europes pour réussir les Europes. Et c'est vraiment l'objectif de la saison, c'est de réussir ces Europes. Tout ce qui se passera après, c'est du bonus, mais je veux vraiment réussir ces Europes.
Avec le recul de ces quelques mois, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est plus compliqué de s'entraîner de manière plus isolée?
Ouais, c'est plus compliqué parce qu'à l'INSEP, moi je l'ai dit, l'INSEP c'est un endroit extraordinaire pour s'entraîner au niveau professionnel. Aussi, on est avec les copains de l'équipe de France, que ce soit Luc ou Flavien ou même les autres. Donc mentalement, tous les jours, c'est plus facile de se retrouver avec des gars qui ont la même vibes, qui s'entraînent comme toi. Alors qu'à Boulogne, je suis un peu plus esselé. Je suis avec ma copine, mon coach assistant Léo qui est là tous les jours avec nous. Mais c'est vrai que on a moins d'interactions sociales et ça, c'est un peu plus compliqué, et même sur les stages. J'ai déjà prévu l'année prochaine de contacter quelques athlètes pour justement qu'on se monte des stages entre nous pour avoir un peu plus de social. Je pense que ça m'a manqué un peu, même si j'ai retrouvé le social des amis et de la famille. Mais c'est pas la même vibes de travail au quotidien que c'était à l'INSEP. Donc ça a été un petit changement aussi. Et je suis quand même parti beaucoup plus en stage aussi par rapport à l'année dernière parce que justement j'avais besoin de me mettre dans ma dynamique de travail pour réussir mes objectifs.
Et avec le coach Taoji, ça n'a rien changé du coup, ce petit aller-retour, du coup c'est non. Ça a mis un petit coup de peps ou au contraire peut-être?
Ouais, non, en fait j'ai arrêté, on a arrêté ensemble avec Adrien, pas pour la performance, pas pour l'entraînement, c'est juste que moi je rentrais à Boulogne et j'avais envie de redonner une chance à mon premier coach Arnaud, parce que voilà, j'avais évolué et qu'on pouvait encore plus évoluer dans l'entraînement avec Arnaud, sauf qu'en fait Arnaud s'est rendu compte rapidement que partir loin de sa famille, ça, c'était compliqué émotionnellement. Et donc, en fait, il m'en a parlé très rapidement. Et après, moi, le choix, c'était normalement de prendre le temps de la réflexion et de m'entraîner aussi tout seul pendant 2-3 mois et ensuite voir. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de coachs avec qui je voulais potentiellement m'entraîner. Et donc, en fait, j'ai appelé Adrien. Adrien m'a conseillé et en fait il m'a conseillé aussi qu'il pouvait me réentraîner, qu'il n'y avait aucun souci avec ça. Et en fait tout de suite j'ai dit si t'es chaud, let's go, on repart, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc du coup on est reparti et ouais, c'est toujours comme avant. Et j'ai de la chance d'avoir Léo Dubié, mon coach assistant au quotidien, qui est avec moi. Et ça aide, parce que s'il n'était pas là, je pourrais pas m'entraîner tout seul au quotidien, c'est impossible. Et donc là du coup ça fonctionne bien le duo.
Et voilà, Jimmy Gressier en finale directe du 5000 mètres ce lundi soir. Ce sera 21h40 heure française. Alors vous écoutez peut-être ce podcast après lundi. Donc il sera peut-être déjà champion d'Europe à ce moment-là. C'est ce qu'on espère, face à lui Etienne Daguinos, le Belge Isaac Kimeli ou encore le Suisse Dominique Lobalou. Les autres chances françaises, j'ai envie, Teddy, qu'on parle des champions d'Europe en titre. Il y a Gabriel Tual sur le 800 mètres, Alexis Miellet sur le 3000 steep et également Alice Fino sur le 3000 steep. D'abord les deux garçons, un mot sur Gabriel Tual et sur Alexis Miellet qui a eu un petit bébé, qui a été un peu malade, donc qui n'arrive pas dans les meilleures conditions.
Alors Gabriel Tual, il faut dire déjà que depuis 2024, on va dire qu'il a eu quelques difficultés, n'est-ce pas, pour retrouver justement ce niveau en termes de performance, bien sûr. Bien qu'il reste pour moi l'un des favoris, puisque ça fait quand même pas mal d'années, ça fait pas mal d'années justement qu'il reste quand même à très haut niveau. Il sera quand même titillé, en tout cas fortement challengé justement par plusieurs adversaires, notamment l'Espagnol, qui est tout simplement aussi stratosphérique par ses performances.
Mohamed Attaoui.
Mohamed Attaoui, bien sûr. Et voilà, maintenant on espère aussi qu'il gardera forcément qu'il gardera sa couronne. Maintenant, c'est clair que voilà, le niveau s'est quand même densifié, le niveau s'est élevé clairement. Et voilà, il va falloir pour lui en tout cas user de toutes ses tactiques en tout cas pour sortir victorieux, n'est-ce pas, de cette compétition. Ensuite, concernant Monsieur Miellet, super championnat de France, il montre qu'il est en forme, même s'il a connu quand même des rebondissements dans cette année, justement avec son enfant, avec sa maladie. Pareil, je pense que s'il a décidé justement de participer à ces championnats, c'est qu'il pense justement être capable de bien s'illustrer, en tout cas de donner le meilleur de lui. Faisons-les confiance, on repart justement sur une nouvelle Olympiade.
Et ça t'impressionne, un gars qui est passé du 1500 au 3000 steeple, avec exactement cette dimension tactique, technique du 3000 steeple qu'il ne connaissait pas avant sur le 1500.
Bien sûr, maintenant on va dire que je pense que les demi-fondeurs ne me reprendront pas, mais je dirais que à partir du moment où ils sont dans des disciplines de demi-fond, on va dire entre 800 et 3000 steeple, on va dire que les disciplines sont assez proches. Il y a quelques ajustements forcément à mettre en place, mais on est quand même dans la même famille, n'est-ce pas, de disciplines. Et je pense également qu'il a rapidement, en tout cas, compris les petits détails, les petits réglages à mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir s'illustrer lors de ce championnat.
Et du côté des femmes, on a Alice Fino. Elle, on va l'écouter sur RMC Running. Elle est championne d'Europe en titre. Elle a terminé quatrième des Jeux Olympiques de Paris en 8,58, record d'Europe, un chrono assez exceptionnel. Et elle arrive dans une forme également incertaine, puisqu'elle est venue s'entraîner en France avec Philippe Dupont. Elle est repartie avec son entraîneur espagnol de l'époque pour reprendre les bases. Et elle remonte en puissance. Elle a 35 ans, Alice Fino, mais ça reste une jeune athlète dans l'équipe de France. On l'écoute, Alice Fino.
J'ai un peu appris à réaliser que ce titre, il ne m'appartient pas, parce que c'est beaucoup la question qu'on pose, c'est alors tu vas renouveler et tout. Et je ne le sens pas comme un dû, parce que chaque compétition, en fait, la compétition est nouvelle. Nous, les athlètes, on évolue en tant que personne, en tant qu'athlète. C'est ça qui est hyper aussi excitant aussi, c'est de se dire que les choses, elles ne sont pas ancrées et que tout bouge. Et voilà, ce titre, il m'appartenait en 2024 sur ce moment, sur cette course, avec l'état de forme que j'avais et que mes rivales avaient. Et aujourd'hui, je me présente avec un parcours différent. Je trouve que j'ai beaucoup changé depuis les Jeux Olympiques. Et puis mes athlètes, les autres athlètes, elles ont aussi pris du niveau. Donc ça peut avoir un tout autre profil de course. Ce qui est hyper stimulant, c'est de me sentir armée, enfin. J'ai peiné à retrouver mes armes, mais de me sentir armée sur le championnat, c'est en fait surtout tout ce que je cherche. Je pense que j'ai énormément progressé sur le plan humain et mental, Et sur le plan technique, ben, j'ai essayé quelque chose de nouveau. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas, que ça n'allait pas dans le bon sens. Et je n'ai pas insisté. Et je suis retournée sur ce qui fonctionnait d'avant. Et là, je retrouve ces boutons-là. Et c'est ce qui me fait retrouver vraiment beaucoup de plaisir dans un premier temps à l'entraînement. Voilà. Et là, c'est ce que je veux aussi revenir chercher en compétition.
Voilà, Alice Fino qui visera également encore un titre de championne d'Europe ici à Birmingham. Bon, Teddy Tamgo avec nous toute la semaine sur RMC, on le rappelle, entre 20h et 22h en direct depuis l'Alexander Stadium de Birmingham. En ce qui concerne les autres chances de médaille, tu as parlé de Yann Chossinan au marteau, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le 110A avec notamment Kwau Maté, voire Théo Pedre qui est un jeune qui arrive, Thomas Wilkes aussi, pourquoi pas. Bon, toi qui es un ancien triple sauteur, est-ce que sur le triple saut, sur la longueur, tu vois des Français potentiellement médaillés?
Alors déjà, j'aimerais passer un petit bonjour à Willem Bélossian et Sacha Zoya justement, qui ont été, n'ont pas été épargnés par les blessures cette année et qui avaient clairement leur chance quand on voit justement les performances des participants. Ensuite, pour revenir justement dans mes disciplines, on va dire les sauts, on a justement Hilarik Pacha qui arrive avec la troisième performance des participantes. Elle a fort à faire justement sur ce championnat. Elle a été très convaincante au championnat de France justement en battant justement au cinquième essai Yanis David avec 6m98. Je pense qu'elle a vraiment à cœur aujourd'hui de monter pour la première fois sur la boîte. On a aussi Bissemo et Yanis David qui arrivent vraiment aussi pour faire quelque chose. Je pense qu'il faut faire confiance à ces filles. Moi, personnellement, cette année, comme on commence justement une nouvelle Olympiade, on arrive sur un nouveau cycle, j'ai tendance à tous leur faire confiance, puisque chacun va se tester après justement la grande période qu'il y a eu justement avec l'enchaînement Jeux Olympiques et Championnat du Monde à Tokyo, qui a été assez éprouvant justement pour les athlètes. On a des nouveaux noms. Voilà, on est là pour explorer. Je sais qu'ils ont des ambitions justement de victoire, de podium, de grande finale. Mais voilà, je suis plus exploratoire sur ce championnat plutôt que déterministe en ayant vraiment des objectifs clairs pour chacun d'entre eux.
Bon, on espère à minima quand même 10-15 médailles. On en avait fait 16 à Rome 2024. On rappelle que sur les championnats d'Europe, évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités pour les Français. L'athlète français qui n'est pas non plus au fond du trou comme on l'entend souvent, puisqu'il y a beaucoup de records de France qui sont battus. 800 hommes, 800 femmes avec Anaïs Bourgoin. On n'a pas parlé du 800 femmes, mais le niveau est tellement exceptionnel mondialement et européen qu'on verra si Anaïs Bourgoin et Renelle Lamotte peuvent faire quelque chose. Mais elles sont évidemment à minima parmi les outsiders. Il y a également Agathe Guillemot, record woman de France sur le 1500, Jimmy Gressy, on en a déjà parlé, mais Étienne Daguinos aussi aura ses chances sur le 5000. Bref, on verra ça, on fera le bilan, Teddy, en fin de semaine. On se retrouve en tout cas, comme on l'a dit, comme on le répète, entre 20h et 22h pour commenter toutes les épreuves. Et puis on va essayer de kiffer tout simplement sous le soleil de Birmingham, une fois n'est pas coutume. Salut les amis.
Salut.